La première,
11h midi,
Question clé, avec Véronique Thiberghien.
Bienvenue, merci de nous rejoindre jusqu'à midi dans Question clé, votre magazine Tendance et Société. Aujourd'hui, deux sujets à vous proposer comme d'habitude. Notre premier sujet sera consacré à la santé mentale hors les murs. Une santé mentale, une prise en charge de la santé mentale qui s'adapte aux pratiques d'aujourd'hui. Elle sort des murs hospitaliers et pour cause, 35% des Wallons interrogés par l'ISP, l'Institut de Santé Publique, déclarent souffrir de difficultés psychologiques. On parle donc aujourd'hui de la santé mentale hors les murs avec Marion Sautin et Valérie Spielmann. Et puis notre deuxième dossier du jour sera consacré à l'homéopathie. Nous y revenons puisque les politiques décident de remettre en cause l'homéopathie aujourd'hui en la traitant d'objets accessoires de la médecine. On en parle avec le spécialiste de l'homéopathie, Jean Lanzmann sera avec nous pour nous expliquer pourquoi aujourd'hui encore l'homéopathie a des difficultés à se faire reconnaître, alors que dans le public par contre, elle connaît un certain succès de plus en plus dans les usages quotidiens. Vous mêlez homéopathie et allopathie. On en parlera donc avec lui, ce sera vers 11h30.
Question clé, 11h midi sur la première.
Dossier et sujet préparé par Catherine Sorel et Sandra Veras, aujourd'hui mis en onde par Jeanne de Barcy. Et nous recevons Marion Sautin et Valérie Spielmann parce que d'après la dernière enquête nationale sur la santé des Belges de l'Institut de Santé Publique qui date déjà de 2013, 35% des Wallons interrogés souffrent de difficultés psychologiques. Le 10 octobre de chaque année a lieu la Journée mondiale de la santé mentale et à cette occasion, le CRESAM, le centre de référence en santé mentale, organise la semaine de la santé mentale en Wallonie. Elle est dédiée cette année aux services de santé mentale dans la cité. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il est important de prendre soin évidemment de sa santé mentale et que des ressources existent en cas de difficulté. Ces ressources sont notamment développées par les services de santé mentale qui ont bien évolué aujourd'hui pour aller jusqu'à la rencontre de leur public sans hésiter à sortir des cadres du travail habituel, à participer au réseau de soins, à rencontrer leurs usagers là où ils se trouvent, à s'inscrire dans la cité ou à interroger même la société. L'idée de sortir les pratiques psychiatriques hors les murs des hôpitaux n'est pas neuve, mais elle reste très méconnue. Consultations aux soins des services sociaux, travail même à domicile, rencontre des usagers dans leur milieu de vie. Nous parlons de ces évolutions aujourd'hui des services de santé mentale en compagnie de Marion Sautin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre et directrice thérapeutique du service de santé mentale Safran à Braine-l'Alleud. Et Valérie Spielmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous logopède au service de santé mentale Safran également. On peut peut-être déjà expliquer ce que c'est ce service en particulier Safran. Qui veut répondre? Marion Sautin.
Oui, donc effectivement c'est un SSM, comme vous dites, qui est vraiment dans le centre de Braine-l'Alleud, donc accessible à tous, qui se veut vraiment être proche de la population et que toute personne en demande aide puisse pousser la porte et venir consulter. Donc le SSM existe depuis plus de 30 ans. Il a été agréé et subventionné par la région Wallonne, hein, donc, qui est notre pouvoir subsidiant. Et donc voilà, on propose des consultations tout venant pour enfants, adolescents et adultes. Donc on a une équipe plus orientée pour les enfants et les adolescents et une équipe adolescents-adultes. Et le service a aussi deux initiatives spécifiques qui est la première, le Solier, qui est une initiative d'habitation protégée qui accueille 4 jeunes en difficulté psychique, donc qui ont entre 18 et 25 ans, et le Gerso, donc qui est cette initiative dont on va peut-être un peu plus parler aujourd'hui, qui est une partie de l'équipe enfant et qui accompagne le tout petit dans ses premiers liens à partir de son lieu de vie.
Mmh. Alors justement, ça ne fait quelques années, comme je le disais, que ça existe et la pratique existe depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Ça reste très méconnu à la fois du public et même parfois de certains médecins généralistes qui ont du mal à réorienter certains de leurs patients. Comment ça se fait qu'il y ait une telle méconnaissance aujourd'hui de cette possibilité qui est une vraie richesse, Valérie Spielmann, d'après vous?
De consultation, vous voulez dire, du fait de venir en santé mentale. Mais disons qu'on peut dire qu'il y a quelques années, probablement, il y a déjà longtemps, la santé mentale faisait peut-être peur aussi à pas mal de personnes qui peut-être étiquetaient un peu trop vite la santé mentale du côté de la folie. Donc c'était effectivement peut-être même méconnu au niveau des professionnels de la santé. ce qui n'est plus vraiment le cas actuellement. Je pense que maintenant, on a quand même une vitrine plus claire, je dirais, et donc plus accessible aussi, comme le disait ma collègue.
Ça demande toujours une démarche proactive, Marion Sautat. Ça demande toujours qu'on vienne pousser la porte quand même, malgré tout.
Alors, justement, avec le Gerso, pas moins. Tellement. Alors, c'est vrai que le Gerso, il est né depuis... en fait, il a été pensé à partir de l'équipe enfant déjà qui travaille avec les tout-petits depuis plus de 20 ans et qui a justement, au fil du temps, tissé des liens avec tous les professionnels de première ligne, donc les crèches, les maternités, l'ONE, et qui a petit à petit, comme ça, développé tout un réseau et un travail de supervision aussi avec ses équipes. Et de tout ce travail-là, l'équipe a été assez sensibilisée à la souffrance psychique du tout petit et est née en fait et a été pensée au fil des années le dispositif du Gerso, mais donc qui est venu quand même aussi suite à tout ce travail avec le réseau, donc finalement qui travaille beaucoup avec tout ce réseau là. Donc c'est vrai que on s'adresse à tout le Brabant wallon mais ça reste effectivement continuellement un travail de retourner quand il y a une nouvelle équipe qui arrive, de se représenter, etc., pour effectivement que qu'on puisse être interpellé par l'autre social.
L'autre intervenant qui pourra faire le lien entre la personne en souffrance et vous. Je lisais en préparant l'émission qu'une étude avait été réalisée chez nous en Belgique, disant que dans 90% des cas, lorsque l'un des deux parents est en souffrance, l'enfant sera lui-même en souffrance psychologique et en détresse psychologique, et qu'il faut donc pouvoir réagir. J'imagine que c'est en réponse à ce type aussi de problématiques et de réalités qu'a été mis en place à la fois le Gerso, mais aussi le Safran.
Oui, effectivement. Donc, il y a d'une part les supervisions qui existaient déjà depuis plus de 20 ans au service et qui ont permis aux intervenants de première ligne de reconnaître ces signes aussi. Et puis, il y a effectivement une préoccupation de la région wallonne aussi qui nous interpellait sur le fait que cette population 0-3 ans n'était pas assez représentée dans les services, effectivement. Et donc, l'idée du Gerso, c'était d'aller à la rencontre justement de ces enfants en souffrance psychique, bien souvent sur leur lieu de vie. Ça peut être sur le lieu du domicile, mais ça peut aussi être dans les lieux de crèche. Et ce sont effectivement des enfants dont les parents n'auraient pas eu l'idée de consulter et de faire la démarche au service de santé mentale. Donc voilà l'idée d'intervenir sur le lieu de vie de l'enfant, en fait.
Marion Sautat ?
Oui, vous disiez au fond, peut-être ça peut être un enfant d'un parent qui a une difficulté. Et effectivement, pour ça, c'est très important notre travail avec les maternités, avec les TMS de l'ONE, parce que justement, on peut déjà intervenir même avant la naissance de l'enfant, déjà quand une maman est enceinte par exemple, on pourrait déjà être interpellé à ce moment-là s'il y a une inquiétude, et à ce moment-là on part de l'inquiétude de l'autre social en pariant sur quand même une possibilité d'un travail avec le parent qui n'est pas demandeur à ce moment-là, mais on fait le pari que par notre travail on va réussir à créer quelque chose avec le parent et travailler ensemble.
On va un peu plus particulièrement parler du public évidemment que vous allez rencontrer, essayer de comprendre s'il s'agit d'un public qui effectivement à la fois n'est pas sensibilisé au départ par ce type de démarche et qui pourrait donc l'être, mais s'il s'agit aussi d'un public précarisé, parce qu'il y avait cela aussi dans les notes d'intention de faire sortir les soins de santé mentale hors les murs, de pouvoir toucher cette population parfois plus précarisée, à la fois financièrement, mais aussi psychiquement et psychologiquement, et de pouvoir aller à la rencontre de cette population particulière. On verra avec vous dans un instant si c'est le cas ou pas, et de voir comment vous fonctionnez, surtout aussi quels sont les avantages d'aller dans ce public et les difficultés, car j'imagine qu'il y a une adaptation des pratiques qui doit se faire à ce moment-là et qu'elle n'est peut-être pas aussi aisée qu'on peut l'imaginer.
Jusqu'à midi, Véronique Thiberghien. Question clé.
Question clé.
Sur la première.
Des services de santé mentale en pleine évolution pour s'adapter aux besoins de la population avec Marion Sautat, pédopsychiatre et directrice thérapeutique du service de santé mentale Safran à Braine-l'Alleud, et Valérie Spielmann, logopède, à ce même service. On parlait de la population que vous pouviez toucher, une population, vous l'avez déjà dit, qui ne pense pas forcément, mais l'idée de cette pratique hors les murs, qui a quand même beaucoup été encadrée aussi par ce fameux projet 107, pour ceux qui le connaissent, qui a été un projet qui a été mis en place à la fois par les pouvoirs publics aussi, mais par tous les acteurs de services service de soins en santé mentale qui désiraient un peu changer leurs pratiques et les adapter au mieux à la société d'aujourd'hui. Il y avait cette pratique hors les murs qui visait aussi à toucher des publics parfois précarisés. Alors précarisés financièrement, mais aussi psychologiquement, des publics plus fragilisés. Est-ce que c'est ce type de public qu'aujourd'hui vous arrivez à atteindre ? Marion Sautin ?
Oui, alors effectivement, on travaille avec cette population-là, donc faire effectivement la différence entre la précarité qui peut être socio-économique, d'une part, et la précarité que nous on nomme symbolique, cette difficulté à pouvoir dire que ça ne va pas, déjà se formuler pour soi-même que ça ne va pas faire une demande. Donc c'est ça qui est compliqué pour ces familles-là. Et effectivement, l'importance de l'autre social qui vient nommer l'inquiétude et qui va faire appel à nous. Alors c'est vrai que notre service et le GERSO existent déjà même avant l'idée des projets 107, donc qui ont d'abord été à destination des populations adultes. Donc c'est vrai que nous, on avait déjà cette pratique-là en amont, de par le travail effectivement qu'on avait avec toutes ces équipes de première ligne. Mais effectivement, notre travail, ça va être au fond avec ces familles qui ne peuvent formuler une demande, mais justement, de faire un chemin avec eux pour que émerge un questionnement aussi de leur côté, que ce ne soit pas que l'autre qui vienne dire que quelque chose ne va pas, mais qu'ils puissent reprendre ça un peu à leur compte.
Comment se passe ce travail exactement ?
Alors effectivement, pour essayer de faciliter, de faire émerger une demande et le fait d'aller à domicile, ce qui nous est apparu en tout cas important, il y a plusieurs choses. On a essayé de définir un dispositif, en tout cas pour le GERSO, pour cette pratique-là spécifique, c'est en tout cas d'intervenir à deux. Alors le GERSO est représenté par plusieurs fonctions, mais c'est vrai qu'au domicile, on ne se présente pas aux gens en fonction de nos formations personnelles. On se définit comme des cliniciens, intervenant sur place, mais à deux en tout cas, de manière à faire circuler la parole et de créer un temps d'attention pour le parent, mais aussi pour l'enfant, parce qu'on a remarqué que ces interventions seules étaient vraiment compliquées. On est parfois submergé par beaucoup de choses qui se disent, qui se passent.
Est-ce que le fait justement de sortir des murs, c'est pas ça aussi le fait que vous pénétrez trier dans l'intimité finalement de ces gens, fait en sorte que il y a une empathie presque inévitable et peut-être plus présente que dans la pratique des murs hospitaliers ou des murs de centres santé mentale.
Tout à fait. C'est vrai que pour nous, ça nous permet aussi de voir un peu dans quel milieu vit l'enfant et de se familiariser un petit peu à cette ambiance dans laquelle il est, ce qu'on ne verrait pas effectivement peut-être dans un milieu hospitalier ou même dans nos bureaux en consultation. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer aussi de nouer quelque chose avec le parent pour que ensemble, on puisse imaginer peut-être d'aller consulter ailleurs ou d'élargir un petit peu les choses avec la personne, mais dans un premier temps, en tout cas, il s'agit vraiment d'une véritable rencontre avec l'enfant.
Marion Sautin ?
Oui, et c'est vrai qu'on peut se rendre compte sur place de percevoir la réalité dans laquelle l'enfant vit, des choses très concrètes, l'aménagement du lieu de vie. Par exemple, un parc qui serait situé derrière un canapé, donc avec un enfant qui ne serait même pas en vue du parent, par exemple. Ou une radio qui fonctionne plein pot et un enfant qui est dans son lit qui ne peut pas être entendu s'il appelle, par exemple. Des choses comme ça. Ça nous permet, nous, en tout cas, d'appréhender vraiment la réalité dans laquelle il est et d'être assez sensible, finalement, à la détresse qu'il peut vivre, par exemple, à ce moment-là. Et à partir de ce qu'on observe et de ce que l'enfant nous montre, de pouvoir penser nos interventions.
Je vous propose, après la publicité, justement, de nous plonger aussi dans le monde des adultes, cette fois, où nous irons visiter un centre, une équipe mobile, plutôt. C'est Delphine Schlesser qui est allée à leur rencontre. Elle a notamment rencontré l'une des personnes que va visiter cette équipe mobile, qui est plus spécialement dédiée, cette fois, aux adultes. On aura donc la version adulte aussi. Et puis, surtout, ce témoignage, en particulier, qui montrera les aspects... les avantages, entre guillemets, que permettent cette pratique de santé mentale hors les murs. On y revient juste après ceci.
11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé. avec Véronique Thiberghien.
Je vous le disais, c'est aussi la semaine de la santé mentale en Wallonie jusqu'au 10 octobre, date de la journée mondiale dédiée à la santé mentale. Le thème de cette année, les services de santé mentale dans la cité, avec un point d'orgue, la journée du 8 octobre. Jeudi se tiendra un colloque de 8h30 à 16h30 à Charleroi, consacré à cette thématique de la santé mentale dans la cité. On y reviendra notamment à travers l'un des ateliers à cette pratique hors les murs, mais il y aura bien d'autres choses. Si vous voulez avoir les informations sur cette semaine en particulier, vous pouvez les obtenir sur le site du CRESAM, CRESAM.be tout simplement. Et puis, je vous le disais, nous allons aussi nous intéresser à la pratique qui concerne plus particulièrement les adultes, une pratique hors les murs qui sont les équipes mobiles de psychiatrie du projet 107. Ce service propose un accompagnement thérapeutique personnalisé dans les lieux de vie même du patient. C'est un service gratuit qui est parfois la seule alternative à une hospitalisation. Delphine Schlesser est allée suivre l'équipe mobile de crise de Leuzon-Hainaut.
L'équipe mobile de psychiatrie de crise de Leuzon-Hainaut est composée de 8 personnes, plusieurs infirmières, psychologues, assistantes sociales, une animatrice, le tout supervisé par un psychiatre. Delphine Gothon est la responsable des équipes mobiles du projet 107 de Leuzon-Hainaut.
C'est quelque part une alternative à l'hospitalisation, c'est profiter de la crise pour utiliser la crise comme une opportunité de changement pour l'usager, pour ses proches.
Sophie est l'une des psychologues de l'équipe. Aujourd'hui, elle rend visite à une patiente à son domicile.
Donc en fait, on a reçu un coup de fil de son psychiatre qui nous expliquait que cette dame n'allait pas bien depuis plusieurs années, qu'elle était maniaco-dépressive et qu'elle avait besoin d'un soutien à domicile parce que c'était une personne qui était fort seule. On a décidé finalement d'intervenir d'une façon très brève, pour plus ou moins un mois, mais en y allant plusieurs fois par semaine, pour essayer de l'aider de façon intensive. On s'est rendu compte que cette dame était seule, qu'elle avait besoin d'activité, qu'elle était en épuisement au niveau de son travail aussi. Voilà, notre but, ce n'est pas de se substituer à des psychologues, mais plutôt de l'accompagner vers le soin.
Une solution qui rencontre un succès incontesté auprès des patients qui ont souvent besoin d'écoute et de soutien pour affronter le quotidien.
Le fait que ce soit des inconnus, c'est peut-être aussi bien, parce qu'on reprend un petit peu sa vie, on leur explique tout, on leur explique de notre enfance jusqu'à l'âge adulte, et ils ont vraiment une vision complète de notre vie. Et donc, il nous cerne très bien. Et moi, ce que j'ai trouvé très important, c'est d'abord l'écoute. Ça, c'est très important. Et écouter, mais bien écouter. Ils mettent le doigt sur toutes les choses importantes. Et pour finir, c'est pas eux qui trouvent les réponses et les solutions, c'est nous. Quelque part, on pourra s'aider. Ils donnent les outils qui permettront de se débrouiller tout seul. Et ils ont chacun, dans le groupe, ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun leur caractère, et ça apporte vraiment un peu de tout. Pour les personnes qui ont des troubles mentaux, c'est important, c'est pas une hospitalisation, parce que quand on est à l'hôpital, il faut revenir dans son quotidien, et c'est difficile. Nous, ici, on apprend justement à gérer le quotidien.
Un reportage de Delphine Schlesser, donc auprès de l'équipe mobile de crise de Leuze-en-Hainaut. Nous sommes avec Marion Setin et Valérie Spielmann du service de santé mentale Safran à Braine-l'Alleud. Ici, on parle particulièrement du Gerso qui, lui, travaille particulièrement avec des jeunes enfants de 0 à 3 ans. J'imagine que la technique, enfin la mécanique est un tout petit peu différente.
Oui, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, on a essayé de définir le Gerso, en tout cas, à partir d'un dispositif. Donc il y a l'idée que deux personnes se déplacent à domicile, il y a le tandem, et il y a aussi l'équipe qui est derrière. Et donc par rapport à nos visites à domicile et au temps en tout cas de la prise en charge, nous faisons régulièrement des retours en équipe qui a une orientation commune aussi, et qui nous permettent aussi dans l'après-coup de nous rendre compte d'abord des symptômes, des difficultés dans lesquelles les parents sont et les enfants, mais aussi de penser un petit peu les étapes, la prise en charge, qui est tout à fait au cas par cas, en fait. Hein. Ah, chaque situation est tout à fait particulière et demande en tout cas une écoute de chaque personne de l'équipe, qui a aussi une formation différente pour chacune d'elles. Quoi. En fait, on ne l'a peut-être pas dit au départ, mais le GERSO est sensibilisé à tout ce qui concerne la mise en place de la relation précoce parent-enfant. Mmh. Ça, c'est vraiment l'objectif du GERSO, l'intérêt du GERSO, et qui se différencie aussi de toutes les missions psychosociales, éducatives. On n'est pas du tout du côté du contrôle social. Hein. Ça, c'est aussi important. Ce sont des choses qui sont importantes à dire quand on rencontre les personnes.
Marion Sévin.
Oui, juste pour dire, effectivement, on se situe du côté thérapeutique et effectivement, toutes ces équipes, on collabore ensemble, on peut intervenir de manière conjointe, en tout cas parallèlement, et se réunir pour des concertations, etc. Donc on peut travailler en même temps, dans une même situation, mais nous, c'est vrai qu'on se situe vraiment du côté plus thérapeutique.
Il y avait cet aspect beaucoup mis en avant d'écoute chez le témoin que Delphine Schlesser a rencontré. Est-ce que vous sentez aussi une différence en la matière quand vous allez à la rencontre, à la fois de ces tout jeunes enfants, mais surtout de leurs parents, finalement?
En tout cas, ça nous permet d'être sensibles à bien d'autres choses c'est qu'on ça. Va pouvoir percevoir. Alors l'écoute, je pense qu'on la développe énormément aussi dans nos murs et ça peut arriver que pour une situation, il y ait des temps à domicile ou à la crèche et des temps au service, par exemple. Ça, on peut penser les choses, comme disait ma collègue, on pense vraiment chaque intervention au cas par cas. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on propose un rendez-vous plutôt à la maison? Pour quelles raisons on le ferait à ce moment-là? Ou est-ce que c'est plus intéressant de faire venir l'enfant justement dans un autre endroit au service? Enfin voilà, donc c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on peut penser pour chaque rendez-vous et chaque situation. Quoi.
Est-ce que dans la société dans laquelle on vit, avec l'expérience aussi que vous avez, on pourrait imaginer un retour en arrière et se dire que finalement non, les services de santé mentale n'ont pas besoin d'être hors les murs, ils sont très bien là où ils sont.
Mais le travail est complémentaire. Oui. Donc nous, on a besoin aussi de notre travail en équipe et des temps d'élaboration en équipe et du soutien de notre équipe. On a aussi une supervision extérieure, donc tous ces temps-là sont importants et on fait peut-être pas le même travail en consultation classique et à domicile, mais je pense que les deux, en tout cas, ont de l'intérêt.
Vous l'avez dit, ça touche aussi un public qui n'aurait pas forcément poussé la porte même d'un centre de services en santé mentale, même s'il n'est pas inclus dans un hôpital, et on sait à quel point parfois l'hôpital peut faire peur, comme vous l'avez dit. L'idée de la folie reste toujours très présente dans l'esprit de tout un chacun, et pourtant, aujourd'hui, ce type de service existe à une nécessité de rencontre avec ce public en particulier. Est-ce que vous bénéficiez de suffisamment de soutien?
À quel niveau?
Oui. disons qu'on a, on est reconnu par le réseau professionnel dans lequel on travaille, qui est assez élargi autour de Braine-l'Alleud. Nous sommes reconnus par nos pouvoirs subsidiants qui soutiennent vraiment cette pratique. En fait, c'était une population qui n'était pas du tout représentée dans les services de santé mentale, et donc maintenant, on peut, dans les statistiques, vraiment les représenter de manière beaucoup plus visible. Et d'ailleurs, il y avait aussi l'idée de pouvoir superviser des équipes dans les écoles même, dans les écoles maternelles, pour superviser aussi au niveau des directions d'école, des enseignants, parce que nous pratiquons encore des supervisions de TMS, donc des travailleurs médico-sociaux qui travaillent pour l'ONE, et par exemple des gardiennes de crèche aussi, des puéricultrices. On continue ce travail de supervision, et donc par là, je pense que on est reconnu d'une certaine manière. Oui.
En tout cas, je vous remercie Marion Sautin et Valérie Spielmann d'être venues dans cette émission pour nous parler de ce service en particulier Safran à Braine-l'Alleud, et plus particulièrement encore du service que vous proposez avec le GERSO. Et il y a évidemment le Être Rouge aussi à côté, dont on n'a pas développé, mais ce n'était pas le sujet du jour, mais qui fait un travail formidable également. Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci surtout et bon travail sur le terrain. Dans quelques instants, nous allons ouvrir notre deuxième dossier du jour consacré à l'homéopathie, remise en cause aujourd'hui par certains politiques. On en parle donc avec un spécialiste de l'homéopathie. Évidemment, on ne se prononce pas pour ou contre. De toute façon, dans la pratique, l'homéopathie est là aujourd'hui. Donc la question sera plutôt de savoir comment se fait-il qu'il y a encore aujourd'hui, évidemment, autant de questionnements autour de cette pratique. On en parle dans un instant, juste après. Francis Cabrel, Dur comme fer.
Jusqu'à midi,
question clé.
Question clé
sur la première.